Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une douzaine de dépôts de carburant ou de raffinerie en France sont bloqués ce matin devant les grilles des agriculteurs qui dénoncent l'utilisation d'huile de palme pour produire du biocarburant. Une distorsion de concurrence avec les producteurs étrangers. Nous vous expliquerons pourquoi dans un instant.
L'agriculture aux États-Unis, c'est le secteur d'activité qui a le plus fort taux de suicide et les incertitudes liées à la guerre commerciale n'arrangent rien, vous l'entendrez.
Dans ce journal encore, nous irons à Singapour à moins de 24 heures du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Donald Trump qui y voit, en cas de réussite, un marqueur positif de sa présidence.
Et puis, les Basques espagnols ont manifesté hier pour demander un référendum sur l'indépendance de la région. Ils étaient des dizaines de milliers.
Comment Donald Trump a changé la nature du sommet du G7 ? Retour sur le week-end diplomatique avec Frédéric Seyss et son billet politique à 8h16. Mais d'abord, voilà près de 12 heures que le navire patiente en mer Méditerranée, cherchant désespérément un port d'attache. L'Aquarius, bateau humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée, a accueilli ce week-end près de 600 migrants à son bord. Mais il n'a pour l'instant pas reçu l'autorisation d'accoster, ni à Malte, ni en Italie, comme c'est habituellement le cas. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, leader de la Ligue d'extrême droite, ne veut, dit-il, pas vivre un autre été comme ceux de ces dernières années avec des débarquements sur débarquement. À partir d'aujourd'hui, écrit-il donc, l'Italie commencera aussi à dire non à la traite des êtres humains et non à l'immigration clandestine. Les 629 migrants et les membres de l'équipage de l'Aquarius patientent donc depuis hier après-midi, comme le confirme ce matin Fabienne Lassalle, la directrice générale adjointe de l'ONG SOS Méditerranée, et elle est inquiète.
Actuellement, l'Aquarius, il y a encore quelques heures, là, il passait au large de Malte. Donc, il est en mer et il est en attente d'avoir l'instruction pour savoir dans quel port il va pouvoir débarquer ces personnes. C'est clairement une étape supplémentaire de franchie dans les difficultés et la confusion que nous rencontrons depuis quelques mois déjà. On ne sait pas jusqu'à où cela va nous mener et comment et en quelle mesure on pourra continuer à mener notre action qui est juste de sauver des gens qui se noient en mer. Et on imagine bien que ceci étant tellement intolérable, on ne comprend même pas que ça puisse être remis en question et que ça puisse amener comme ça des tergiversations.
Fabienne Lassalle de SOS Méditerranée avec Benjamin Mathieu. Ajoutons que vendredi, Matteo Salvini avait demandé l'intervention de l'OTAN contre l'immigration clandestine dans le sud de l'Italie.
Là, tous les accès à la raffinerie sont bloqués. Donc on a chargé quelques bennes de fumier, ainsi de suite, et puis on est arrivé et on a déchargé, ouais, là devant les portes.
Ah oui, donc là, il n'y a plus rien qui rentre.
Voilà, plus rien qui rentre, jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. On est prêt à tenir, autant qu'il faudra.
Le cri de colère d'un agriculteur au micro de Manuel Ruffès ce matin devant le dépôt de carburant de Grigny dans l'Essonne au sud de Paris. Il est le même ce cri de colère devant 12 sites, dépôts ou raffineries de Grand Puy en Seine-et-Marne à Strasbourg en passant par Toulouse ou la Mède dans les Bouches-du-Rhône. À chaque fois, du fumier, de la terre et des banderoles. À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, ils dénoncent ce qu'ils estiment être le double langage du gouvernement sur les accords internationaux et sur les importations de matières premières. Et ils prennent en exemple la raffinerie de Lamed, près de Marseille, qui va utiliser de l'huile de palme venue de Malaisie ou d'Indonésie pour produire du biocarburant. Et non pas donc de l'huile de colza ou de tournesol, huile française. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a donné son accord. Pourtant, l'enjeu agricole est aussi écologique, Anne Lorchouin.
Cette raffinerie de Lamed est au cœur de la contestation depuis quelque temps déjà et l'opposition n'est pas simplement agricole. L'ONG environnementale Les Amis de la Terre prévoit notamment d'intenter un recours en justice contre l'arrêté préfectoral qui autorise la raffinerie totale de Lamed à reprendre son activité. Activité centrée donc sur les biocarburants, des biocarburants qui n'ont pas grand-chose de bio et dont la production en France est largement soutenue par les deniers publics. Total donc prévoit pour raffiner ces agrocarburants d'importer 300 000 tonnes d'huile de palme brute par an. Un chiffre qui pourrait augmenter puisque ce plafond n'est pas mentionné clairement dans l'autorisation officielle. Sur cette action de blocage, l'intérêt des agriculteurs est surtout symbolique. Certes, ils craignent que leur propre filière d'agrocarburants ne soit déstabilisée, mais leur action s'inscrit dans la lignée de celle contre le CETA et de façon générale contre les traités de libre-échange internationaux qui concernent les matières agricoles, non à l'importation de denrées qui sont produites dans des conditions moindres que celles que leur impose l'Union européenne. Tel est le message. En revanche, les protestations des écologistes sont d'une autre teneur. Ils rappellent, eux, que les agrocarburants produits à partir d'huile de palme produisent 3 fois plus de gaz à effet de serre que les carburants fossiles, qu'ils conduisent à des déforestations massives en Malaisie et en Indonésie et un phénomène d'accaparement des terres dans ces mêmes pays. Enfin, ils dénoncent un double langage, celui de Nicolas Hulot, qui d'un côté promet de tout faire au niveau européen pour sortir de l'huile de palme et qui de l'autre a autorisé la raffinerie de la Med à reprendre son activité.
Et effectivement, le Parlement européen s'était prononcé en janvier dernier pour l'élimination progressive d'ici à 2021 de l'huile de palme sous la forme de carburant, une directive européenne soutenue par l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Il demande d'ailleurs au gouvernement français de se positionner.
Quand la France défend la raffinerie de la Med avec un enjeu de 300-400 000 tonnes d'huile de palme, elle se bat aussi pour torpiller la décision européenne qui impacte beaucoup plus les forêts, puisqu'au niveau de l'Union européenne, les importations d'huile de palme, c'est plus de 7 millions de tonnes, dont la moitié pour les hydrocarburants. Il faut arrêter ces importations. Elles sont dramatiques pour les forêts, elles sont dramatiques pour le climat. Et en finir d'ailleurs, c'est ce que veut aussi le Parlement européen, avec ces agrocarburants, qu'ils soient d'huile de palme qui détruisent la forêt, qu'ils soient d'éthanol qui remettent en cause la sécurité alimentaire, notamment en Amérique du Sud, ou qu'ils soient de colza ou de betterave, qui conduisent chez nous à une agriculture extrêmement intensive, très consommatrice de pesticides, avec tous les dégâts que nous connaissons sur la biodiversité.
Yannick Jadot avec Sarah Petitbon. Les négociations finales sur cette directive européenne doivent se tenir ce mercredi. Et jusque-là, d'ailleurs, le syndicat agricole, la FNSEA, appelle à maintenir le blocage des raffineries et des dépôts de carburant en France. À l'instant, par ailleurs, chez nos confrères de RTL, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, juge illégaux les blocages de raffineries. Et il précise, le gouvernement français ne reviendra pas sur l'autorisation faite à Total d'importer de l'huile de palme dans les Bouches-du-Rhône. Le malaise des agriculteurs, pour d'autres raisons, il est aussi grandissant outre-Atlantique. Selon l'Agence de protection de la santé américaine, le taux de suicide concernant cette profession aux États-Unis, le taux de suicide a progressé de 30% entre 1999 et 2016. 45 000 agriculteurs américains ont mis fin à leur jour en 2016. C'est 5 fois plus que la moyenne. Alors les représentants de la profession alertent Marco Voltaire.
Les familles d'agriculteurs sont incroyablement résilientes, mais certains d'entre vous souhaitent peut-être profiter de programmes d'aide où il est possible de parler avec des experts de votre stress financier, de dépression, d'anxiété. Voilà ce qu'écrivait une importante coopérative laitière dans une lettre adressée à ses centaines de membres. C'était au mois de février, au moment d'annoncer une nouvelle baisse des prix du lait pour la 3e année consécutive. La coopérative collecte dans les 6 États de la Nouvelle-Angleterre, du Maine à Rhode Island. La lettre est accompagnée de numéros de centres de prévention du suicide. Aux États-Unis, le taux de suicide est 2 fois plus important chez les agriculteurs que chez les vétérans de guerre. Et les incertitudes politiques à Washington, ainsi que les doutes sur l'issue de la confrontation commerciale entre Donald Trump et le reste du monde, ne sont pas pour améliorer la situation, estime la National Farmers Union. Selon le syndicat, l'instabilité arrive à un moment où les agriculteurs traversent déjà une crise. Leurs revenus devraient atteindre cette année son plus bas niveau depuis plus de 10 ans.
Marco Voltaire, qui évoquait à l'instant la guerre commerciale entre les États-Unis, le Canada et les Européens. Elle a entraîné ce week-end le début d'une crise diplomatique aiguë. À l'image de ces 5 tweets de Donald Trump, en à peine 2 heures cette nuit, il fustige les contre-mesures commerciales prises par le Premier ministre canadien Justin Trudeau et il menace les Européens. Donald Trump prévient ainsi « Les États-Unis payent la quasi-totalité du coût de l'OTAN, on protège l'Europe, ce qui est bien, pour un coût financier élevé. Et après, on se fait matraquer injustement sur le commerce, cela va changer. » Fin de citation. Des tweets que la chancelière allemande Angela Merkel juge déprimants. Son ministre de l'économie parle d'ailleurs à l'instant d'un échec. Aucun progrès n'a été fait au G7, déplore-t-il. Donald Trump, qui est depuis le G7 à Singapour, le président américain et Kim Jong-un résident en ce moment à 800 mètres l'un de l'autre, dans 2 hôtels différents, pour un sommet qui s'annonce historique. À 3 heures du matin, la nuit prochaine, prochaine. Donald Trump devrait ainsi serrer la main du dictateur nord-coréen. Il devrait se serrer la main, car jusqu'au dernier moment, tout est possible. Eux qui s'insultaient il y a encore quelques mois. Et à 24 heures de cette rencontre, nous retrouvons donc ce matin notre envoyé spécial, Grégory Phillips. Bonjour Grégory.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Vous avez quitté la Maison-Blanche pour Singapour le temps du sommet. Alors Grégory, quel intérêt a Donald Trump à réussir cette rencontre ?
Ah, c'est évidemment très important pour Trump de réussir ce sommet parce que ce serait pour lui la preuve que sa diplomatie du chaos parfois fonctionne. Il faut se souvenir tout de même qu'en septembre dernier, à la tribune des Nations Unies, le président américain promettait encore de détruire la Corée du Nord si elle s'entêtait à développer son programme nucléaire et parlait de pression maximale sur Pyongyang. Et donc aux yeux de l'administration de Trump, c'est cette fermeté-là qui a payé. Donc on verra bien demain matin comment va se dérouler la rencontre avec Kim Jong-un. On verra bien quelles assurances le dictateur nord-coréen donnera quant à la dénucléarisation de son pays. Et c'est vrai que là, on est un peu dans l'inconnu parce que certes, il va y avoir ce sommet demain, mais est-ce que pour autant, le régime de Pyongyang va s'engager à une dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible, comme le veulent les Américains ? En vérité, au moment où je vous parle, personne ne le sait. Trump, en tout cas, avec ce sommet, offre aux dirigeants nord-coréens une reconnaissance internationale. Ça, c'est une évidence. Si pour l'instant, il y en a un qui a gagné quelque chose, c'est bien Kim Jong-un. Il faudra voir aussi si tout ceci débouche sur la signature d'un accord de paix entre les deux Corées. C'est ce que sous-entendait le président américain il y a encore quelques jours. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il faudra voir enfin si le sommet de demain débouche sur une vraie normalisation des relations entre Corée du Nord et États-Unis. Le Straits Times, le principal quotidien de Singapour, affirme ce matin que Kim Jong-un va inviter Trump à Pyongyang dès le mois de juillet. Mais il faut évidemment que la réunion de demain se déroule bien. Si dans quelques semaines, il y a en Corée du Nord la visite d'un président américain en exercice, alors là aussi, ce serait, Clara, inédit et historique.
Merci Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture à Singapour avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Nous vous retrouverons évidemment dans la journée, Grégory, et puis demain matin pour un premier retour quelques heures après le sommet nocturne.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, des bulletins de vote ont été brûlés en Irak.
Le pays s'apprêtait à recompter les voix des élections législatives du mois dernier, un scrutin marqué par des soupçons de fraude, mais un incendie a ravagé hier le dépôt où étaient stockés les bulletins de vote du secteur est de Bagdad. Selon le responsable de la commission électorale, le nouveau décompte des voix n'est pas compromis, mais déjà le camp de l'imam chiite radical Moqtada Sadr, vainqueur des élections, crie à la manipulation. En bref, encore 2,5 milliards de dollars pour la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït lui accordent une aide financière à la lumière, je cite, des liens fraternels étroits. La Jordanie est engagée auprès du FMI pour mener des réformes structurelles et elle traverse une grave crise économique et sociale depuis quelques semaines. Comme un air d'indépendantisme encore en Espagne, après les Catalans, les Basques se mobilisent à travers une chaîne humaine formée hier sur 200 kilomètres. La revendication au Pays basque espagnol ressemble à s'y méprendre à celle des Catalans, à savoir le droit de décider. Et il y avait du monde pour le demander hier, Mathieu de Taillac.
Un militant, un foulard blanc dans sa main droite, un autre activiste, un second foulard, un troisième militant et ainsi de suite, jusqu'à compter 175 000 personnes, selon les chiffres des organisateurs. Les partisans de l'autodétermination du Pays basque espagnol ont remporté leur pari, formé une chaîne humaine qui connecte les capitales des trois provinces de la communauté autonome, Saint-Sébastien, Bilbao et Vitoria. Une formule qui ressemble à s'y méprendre à la chaîne humaine qui avait traversé toute la Catalogne du nord au sud en 2013. Comme eux, les manifestants réclament le droit à décider, mais les différentes sensibilités comprennent le concept de diverses manières. Il y a d'abord les indépendantistes purs et durs, que l'on recrute notamment dans le mouvement de la gauche Abertzale, l'héritière des vitrines politiques de l'ETA, et qui veut profiter de la fin du terrorisme pour pousser son pion. Mais il y a aussi des nationalistes dits modérés, notamment le Parti Nationaliste Basque, le PNV, qui gouverne la région. Le PNV défend une évolution qui donne encore plus d'autonomie au Pays Basque, mais sans quitter le giron de l'Espagne. Surtout, les dirigeants basques veulent éviter la voie unilatérale empruntée par leurs homologues catalans pour s'épargner le choc juridique et la crise. crise politique. Le défi est différent, moins brutal qu'en Catalogne. Il devrait être géré avec intelligence par un homme jugé moins jacobin et inflexible que Mariano Rajoy, le nouveau président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez.
Mathieu De Taillac à Madrid pour France Culture. C'est une semaine importante, voire capitale, qui s'ouvre en France pour la réforme ferroviaire du gouvernement. Une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs doit se mettre d'accord aujourd'hui sur une version commune du projet de loi. Le texte sera ensuite définitivement adopté après-demain à l'Assemblée, puis jeudi au Sénat. Demain, par ailleurs, tous les syndicats de la SNCF appellent à une journée de la colère cheminote en marge de leur grève. Le retour des orages en ce début de semaine et de la pluie également. 22 départements sont en vigilance orage ce matin. Cela va de l'Aisne jusqu'à l'Indre, en passant par l'Ille-et-Vilaine et l'Île-de-France. De part et d'autre de cette bande orageuse, les averses vont balayer le pays dès ce matin. Et côté température, il y a peu de changements. Il fait 17 degrés à Brest, 18 à Bordeaux, 20 à Paris, Lille, 22 degrés à Lyon, 24 à Strasbourg et à Marseille.